cette avant-dernière émission consacrée aux francophiles de Montréal, nous allons réveiller les morts. Éric Ayotte, commissaire d'exposition pour le compte du Musée du Rock'n'Roll du Québec, et l'année passée, une rétrospective était proposée durant le festival. Nous l'avons rencontré pour une petite séance de rattrapage, ainsi que les musiciens du groupe Jacques Mort, reformé après plusieurs années d'inactivité, et de retour cette année pour les francopholies. Le Musée du Rock'n'Roll du Québec est un musée virtuel qui propose chaque année des expositions, des rencontres, des initiations au rock et de nombreux concerts. On a rencontré Éric Ayotte, un de ces archéologues des temps modernes. Allez, on fait une petite infidélité aux francophilistes de Montréal, mais on va parler d'un truc qui va nous passionner et qui nous intéresse déjà à l'affaire à rock. C'est le Musée du Rock'n'Roll du Québec. Tout ça en compagnie d'Éric, qui a été commissaire d'une exposition qui a eu lieu à Rouyn-Noranda, si je dis pas de bêtises, et qui va bientôt aussi venir être présentée ici à Montréal. Mais avant toute chose, le Musée du Rock'n'Roll du Québec, ça démarre quand, là, le Rock'n'Roll à Québec?
Là, on parle de l'année 56, donc la sortie d'Elvis aux États-Unis, qui tout de suite s'est établie à la radio québécoise. Et alors, on a retrouvé dès l'année 56 des émules d'Elvis au Québec, qui soit reprenaient intégralement les chansons en les traduisant en français ou en faisaient des adaptations. Ceci dit, l'exposition a été présentée l'année dernière au Centre Pierre Péladeau à Montréal. C'est promené cette année à Rouyn-Noranda lors des Internationaux des guitares à Rouyn. Sera présenté aussi en formule mobile dans un autobus qu'on a adapté, peint en noir et adapté pour la route à Montréal. On la présentera dans plusieurs quartiers à Montréal cet été.
Alors, si j'ai bien tout compris aussi, c'est une sorte de musée virtuel parce qu'il n'y a pas de lieu défini où on peut venir, voir des vieilles guitares, des vieilles tenues de scène, écouter des vieux disques. C'est quelque chose qui est plus virtuel sur Internet. Et par contre, vous proposez en effet des expositions, vous proposez des formations, des cours de rock, plein de choses comme ça qui sont mises en place tout au long de l'année.
Oui, voilà, on a plusieurs volets. On voulait rendre la chose interactive. Quand on présente l'exposition en salle, là, il y a des vêtements de scène, il y a des guitares, entre autres celle de Jérôme Lemay, la seule guitare québécoise à avoir fait le Ed Sullivan Show. On a des écolettes, donc les boîtes à écho des années 60, des premiers groupes surf montréalais. On a beaucoup de costumes de scène, de pièces de musique écrites à la main aussi, les pièces originales, évidemment beaucoup de vinyles et d'artefacts comme ça. Beaucoup aussi, il y a un grand pan sur les salles de spectacle à la fin des années 50, au début des années 60 à Montréal.
Alors, c'est finalement le fait aussi que ça soit des artistes en français, on l'a compris, qui réadaptaient des standards américains en français ici au Québec. On a un rapport avec les francos. On aurait très bien pu imaginer avoir un concert peut-être avec des anciens qui remonteraient sur scène 40 ans après.
Oui, en fait, on prévoit cette année faire... c'est déjà programmé, donc sur Sainte-Catherine, devant les mythiques Foufounes électriques, et là où il y a un grand stationnement qui était à l'époque la Maison du Spaghetti, c'était un rassemblement de mafieux qui présentaient des concerts aussi. Alors, on présente plusieurs groupes rock d'aujourd'hui, dont les Delaware Chuck, Bad Uncle, Sonny Duval, Bloodshot Bill, les Buddy McNeil and the Magic Mirrors, Lee's and the Hot Kitchen, qui compte en son sein Arthur Cossette, qui est notre guitar hero québécois, des Jaguars, un groupe mythique des années 60. Et on fera aussi monter sur scène, pour l'occasion, avec Arthur, Ralph Angelillo, qui est le président du Festival de drum de Montréal et qui était à l'origine batteur du groupe Les Megatons. Donc, pour l'occasion, ils se sont appelés les Megajag et ils feront les chansons des deux groupes le 14 juillet à Montréal.
Alors, quels ont été, les pères fondateurs du rock'n'roll québécois?
Ben, je dirais Roger Miron, par ses étiquettes de disques, a été le premier à enregistrer les artistes qui voulaient faire du rock'n'roll. Il y a cependant plusieurs sous-titres à tout ça, là, bien sûr, parce que le rock'n'roll n'existait pas en tant que tel, c'était une mode comme, ou un style comme le cha-cha. On pouvait faire un cha-cha, mais la prochaine chanson, on va faire une samba. Alors, c'était la même chose pour le rock'n'roll. Alors, il y avait les artistes country, western, un peu comme Marcel Martel et ces gens-là. Il y avait les chansonniers ou les chanteurs de pommes qui ont été conquis par Jerry Lee Lewis et Elvis. Alors, André Lejeune en est un bon exemple avec sa pièce « Qu'est-ce que le rock'n'roll? » qui n'est pas une adaptation, qui est vraiment une des premières pièces, sinon la première pièce originale rock'n'roll québécoise, datée de 1956.
Est-ce qu'ils avaient l'attitude aussi, les bananes, le look rocker?
Un peu, oui, c'est vrai. Quoique à la fin des années 50, c'était surtout des artistes de cabaret, donc les habits complets et les robes de soirée pour les femmes, comme Carmen Desiel, qui elle, traduisait en temps réel, si on veut, les chansons d'Elvis. Elle les a enregistrées la même année qu'Elvis, donc elle a fait « Mes souliers bleus » et « Ne sois pas cruel ». La même année où Elvis les a sortis aux États-Unis. Donc, mais elle, c'était une grande dame de cabaret, donc voilà, ouais.
Est-ce que ces artistes, en fait, étaient plutôt rassemblés géographiquement sur les grandes villes ou est-ce qu'on les trouvait partout au Québec?
Bon, au Québec, à ce moment-là, c'est les hôtels qui présentaient les spectacles. Alors, dans chaque hôtel, il y avait une petite salle de spectacle. Ça se passait beaucoup en région. C'est des artistes de la région, mais qui se retrouvaient à Montréal parce que à Montréal, à ce moment-là, on pouvait faire une tournée dans la ville pendant deux semaines sans jouer deux fois au même club. Donc, les artistes venaient à Montréal pour faire la tournée des clubs qui étaient hyper populaires. Si on pense que la culture et la musique est vraiment vibrante présentement, et c'est vrai à Montréal, à ce moment-là, on sortait beaucoup, mais la moyenne d'âge était un peu plus vieille, donc on s'adressait à un public un peu plus vieil, un peu plus vieux. C'était une proposition que le rock'n'roll. Il n'y avait pas des fans de rock'n'roll qui allaient voir des concerts. On leur proposait des chansons rock'n'roll dans un tour de chansons assez éclectique.
J'imagine qu'ils avaient aussi un matériel 100% québécois. Moi, je me rappelle des gens des Breastfeeders qui sont plutôt collectionneurs d'instruments et qui m'expliquaient qu'il y avait ces vieilles marques de guitares québécoises, un peu cheap, mais qui étaient utilisées par ces groupes-là.
Oui, absolument. Mais aussi, il y a la boîte à musique qui existe toujours aujourd'hui à Montréal et qui est un des premiers magasins, ou en tout cas celui qui a survécu à travers les années, qui importait des nouveautés. Donc, les premières écolettes, les boîtes à écho venaient de là. Malheureusement, elles venaient d'Allemagne, mais quand même, on a su adapter ces produits-là à la québécoise. Oui, on les produisait un peu plus cheap, mais on s'est approprié ces produits-là pour les produire ici, pour réduire les coûts, bien sûr. Mais oui, il y a des pièces, des belles guitares québécoises qui, à mon grand étonnement, ont un peu survécu, mais voilà, ouais.
Comment on fait pour alimenter cette base de données qui est quand même assez gigantesque? Parce que là, du coup, la première exposition parlait simplement de la première période du rock au Québec.
Voilà, on a dû couper des lignes de temps. Même la période qu'on couvrait pour la première exposition de 55 à 63, qu'on a appelé d'Elvis aux Beatles ou de Marcel Jaguar, de Marcel Martel aux Jaguars, c'est énorme. C'est énorme et c'était très difficile à rechercher comme période. Parce que les acteurs sont disparus, parce que les artefacts sont moins recherchés que ceux des années 60, donc ont été moins conservés. Mais c'est énorme et on n'a pas la prétention d'avoir tout trouvé et d'avoir parlé de tous. Mais, et c'est important de mentionner qu'on parle beaucoup des artistes francophones, mais qu'à Montréal, il y avait aussi des anglophones et que les Beau Marx, par exemple, avec la pièce « Clap your hands, oh, clap your hands », c'est fait à Montréal à la fin des années 50 aussi. Il y a eu des très bons groupes instrumentaux aussi, comme les Jaguars, les Mégatones et plusieurs autres, qui sont le lien entre le rock'n'roll de la fin des années 50 et la période yéyé, donc le surf instrumental. Les groupes instrumentaux se sont trouvés des chanteurs un peu de pommes et ont mixé les deux ensemble et ça fait les premiers groupes yéyés comme les Classels et compagnie. Là.
Est-ce que les rockers français, les yéyés français sont venus jouer au Québec et est-ce qu'ils ont partagé la scène justement avec des groupes québécois à l'époque dans les années, dans les années 60 plutôt?
Ouais, plus tard dans les années 60, ils sont venus. Ils ont été populaires, mais à l'époque, quand on entendait une bonne chanson, on la reprenait et on signait son nom en bas du texte. Donc, les chansons des plus grands, soit anglais ou français, ont été reprises par des Québécois. Mais c'était aussi la mode chez les compagnies de disques de prendre des textes et de les faire enregistrer par des artistes locaux. Voilà.
J'imagine qu'il y a des compilations qui sont sorties, peut-être en CD ou en vinyle. Est-ce que tu as des pistes comme ça que tu pourrais conseiller à nos auditeurs qui aimeraient se replonger dans l'histoire du rock québécois?
On est en train de créer sur le site Internet un espace où on veut mettre le plus de bio possible, mais faire entendre la musique aussi. Donc, on est dans le processus de faire ça. Pour ce qui est des compilations, on a nous-mêmes l'idée d'en créer une. Mais c'est quand même compliqué pour la période qu'on étudiait, là. Pour ce qui est des groupes un peu plus yéyé, ouais, là, il y a des tonnes de compiles. Je voudrais pas en préférer une à l'autre, mais il faut absolument chercher les groupes. Si on parle des années 60, comme les Lutins, les Oulops, et il y en a tellement. Même les Classel qui sont un peu plus clean, mais qui valent tellement la peine d'être découverts.
Vous êtes combien là au sein du musée du rock'n'roll? Là, du coup, j'imagine aller chiner, aller faire les ventes de garage dans les coins les plus reculés pour essayer de dénicher ne serait-ce qu'un vieil instrument ou un vieux disque obscur.
En fait, le musée est dirigé par Patrice Caron, qui a été au Bang Bang longtemps, au Foufoune électrique, et qui lui-même devient une pièce muséale avec le temps. Patrick est le directeur du musée. Moi, j'en étais le commissaire d'exposition, mais on a une équipe de chercheurs. Je pense à Félix Desfossés de Radio-Canada, qui est un fan incroyable de l'époque, mais aussi un passionné de musique, qui a une belle collection. Et puis Alex, aussi du côté anglophone, qui a tellement de choses, jusqu'à des bâtons là, pour brasser les cocktails, mais d'origine des clubs, voilà. Donc, on est toujours à l'affût depuis qu'on a commencé le projet, mais nous-mêmes, déjà, on l'était, on collectionnait le vinyle, mais là, on cherche un peu plus la période, toujours recherchée, bien sûr. Et puis là, présentement, on prépare la deuxième exposition, donc les yéyés de 64 à 68. Là. Donc, c'est sûr qu'on a les yeux ouverts sur cette période-là, sinon ça n'a pas de fin et je devrais mettre ma femme et mes enfants dehors pour empiler mes vinyles chez moi.
On l'a compris, en tout cas, le terrain de jeu est assez immense. On va donner l'adresse du musée du rock'n'roll du Québec si on veut aller faire un petit tour.
Donc, le musée, vous savez, n'est pas physique, mais sur Internet, vous pouvez nous trouver au museedurock'n'roll.com, voilà. Et si vous êtes de passage à Montréal, vous nous trouverez dans le coin du 30 Sainte-Catherine-Est. Donc, devant les Foufounes électriques, vous ne pouvez pas nous manquer. Mais on présentera aussi un autre concert sur l'esplanade du Stade olympique, les 24 et 25 août, avec Galaxy, Malajube, Canaille, À la claire ensemble, Les Revenants. Il y aura beaucoup, beaucoup d'invités. Et puis l'expo sera aussi présentée dans l'autobus dont je vous parlais un peu plus tôt à l'esplanade du Stade olympique.
C'est con, moi je pars demain, je serais bien resté pour voir ça. Hein.
On t'enverra des photos. L'année prochaine, tu pourras peut-être voir celle des yéyés, voilà.
Merci Eric. Et ben bonne préparation de concert, bonne préparation pour cette deuxième expo en cours. Et puis longue vie au rock'n'roll québécois.
Ben longue vie à tous nos amis rockers français. Merci à toi, Cédric.
Elle a tout pour me satisfaire. Elle a tout pour me rendre heureux. Elle ne fait jamais de colère. Et c'est elle. Oui, c'est elle. Elle est de bon me rendre. Elle ne peut jamais de colère. Oui, c'est elle que j'aime le mieux. Okay. prête pour la danse. Elle me sourit bien doucement. Si je lui donne un baiser tendre, ses yeux se ferment lentement. Dans ses soupirs, je crois comprendre pour femme qu'elle est belle du mal. Elle est pour me satisfaire. Elle est pour me rendre. Il n'est plus jamais de colère. Oui, c'est elle que j'aime le mieux.
Le groupe Jacques Maure ne vous dit certainement rien, mais si je vous dis qu'il compte dans ses rangs des membres de Malajube, autant vous dire que cette reformation était attendue au coin du feu. Les musiciens du groupe m'ont accordé quelques minutes avant ce premier concert depuis de nombreuses années. Est-ce que tout le groupe est au complet là ? Est-ce que vous êtes tous ensemble ? On va faire une présentation lors de chacun.
Moi c'est Julien, je joue de la batterie.
Moi c'est Mélissa, je joue du clavier.
Moi c'est Rémi, je joue de la basse.
Julien, je joue de la guitare.
Et moi, je m'appelle Thomas, je joue du clavier et je chante.
Alors, Jacques Maure, très littéraire, tout ça, comme nom de groupe. J'imagine que c'est pas innocent, évidemment, les références.
C'était innocent au début, comme esthétique. C'est tellement un beau mot, puis on a choisi ce mot-là pour ça. Mais on assume les autres références aussi, là, qui sont, dans le fond, le psychiatre, puis la psychologie, puis sans être trop deep c'est ça, être chiant, mais c'est... Ouais. La psychologie, oui, on endosse.
On m'a dit Jacques Maure se faisait assez rare en concert. On ne voyait pas souvent sur scène, c'est vrai ça?
Tout à fait vrai. Lui, Rémi, c'est son premier spectacle avec nous. Mélissa aussi. Dans le fond, c'est que le dernier spectacle qu'on a fait, ça fait peut-être 5 ans. Puis là, on a comme reformé le groupe. Exprès pour... Non, pas exprès pour les francopholies, mais disons que le show des francopholies qui est arrivé comme ça, qui nous a été proposé, nous a vraiment propulsé dans un... Je sais pas, on a décidé de commencer à répéter plus souvent, puis ben, c'est ça, on s'est assumé en tant que groupe, puis là, ben, on peut faire un show d'une heure qu'on va présenter pour la première fois ce soir, en fait.
Le groupe avait déjà joué il y a 5-6 ans au Franco?
Oui, on avait fait un show au Franco. On avait aussi sorti un EP sur Grosse Boîte, Deltuka Records. Puis on avait fait quelques shows. Puis finalement, ben, ça, on avait comme laissé aller un peu. Puis on a décidé de reprendre ça.
Est-ce qu'on peut donc considérer que c'est comme un nouveau départ? Est-ce que c'est le début d'un recommencement? Je ne sais pas si ça se dit. Ou alors, on est comme dans un certain prolongement de l'histoire de Jacques Maure?
Ben, y a un prolongement, là, c'est sûr. Dans le sens que je pense qu'il y a comme un noyau là, qui reste. Là. Puis on s'est jamais perdu de vue musicalement du tout. Puis on continue à jouer les chansons qu'on avait faites avant. Mais en même temps, c'est sûr que d'avoir des nouveaux membres, tout ça apporte comme une nouvelle dimension, une nouvelle... Puis on a changé un peu dans nos goûts musicaux puis dans notre façon de faire de la musique, mais c'est sûr que ce soir, ça a comme l'air d'un nouveau début pour nous.
J'imagine quand même qu'en 5, 6 ans, 7 ans, ben les choses évoluent, les envies peut-être aussi de chacun. L'apport des nouveaux musiciens fait aussi que le groupe s'enrichit de nouvelles envies, de nouvelles références. Et la mayonnaise prend. Alors vous êtes là, vous, dans le groupe, depuis combien de temps alors? Parce que si c'est le tout premier show, ça reste assez récent.
Ça fait pas longtemps, ça fait 3 ou 4 mois à peu près qu'on a commencé, je pense. Plus ou moins, on a fait des maquettes un peu, on n'a pas fait d'enregistrement encore... officiel, si on veut, mais on a travaillé sur des maquettes, puis on s'est préparé beaucoup, on a joué beaucoup dernièrement pour devenir bon, pour que la mayonnaise prenne, comme vous dites. La mayonnaise a pris, là, on pense.
À quoi on doit s'attendre sur scène, alors, ce soir avec Jacques Maure? Parce qu'il y a du nouveau matériel, j'imagine.
Ouais, c'est plein de nouveaux matériels, puis c'est plein de... C'est comme un baptême de plein de chansons, puis ça, je pense que ça va être bien fébrile, mais en même temps, ça va juste être une bonne ambiance aussi, parce qu'on joue à Montréal devant plein d'amis, devant plein de gens qui vont nous aimer, même si on n'est pas parfait.
Comme nos parents.
Ouais, nos parents, nos blondes, nos ex-blondes.
Il y a comme un disque qui va venir ou...
Okay, le disque n'est pas prêt. Ce qu'on a fait à date, c'est des maquettes. Puis,
Mais je pense que se préparer pour le spectacle, ça nous a quand même... Ça nous a fait travailler sur les arrangements, là, comme on s'est, comme pas qu'on s'est dépêché, mais ça nous a donné l'énergie, là, le coup de pied au derrière, ouais, pour vraiment avancer ça. Il y a des choses qu'on a vraiment, qui auraient peut-être pris plus de temps ou qui auraient, ça serait fait autrement, puis finalement, c'est ça. Ce qui est intéressant, je trouve, à 5, c'est ça, on a une nouvelle chimie, donc d'un certain côté, il y a certaines choses qu'on a simplifié là, au niveau de l'instrumentation, au niveau des arrangements. C'est pas que c'est moins riche, justement, parce qu'on est 5, il y a 2 clavieristes maintenant. Mais c'est ça, on a soudé justement la dynamique de groupe. Puis ça va, je pense que ouais, ça va être profitable au disque. On va arriver plus, on va être préparé.
Pour vous, c'est une belle carte directement, puis de se retrouver comme ça, j'ai envie de dire réinvité sur les Franco après toutes ces années. C'est qu'il y a une fidélité aussi, je pense, de la part des programmateurs du festival et qu'ils aiment en fait tout simplement l'univers musical que vous proposez.
C'est intéressant, il y a comme une symétrie dans le fond, dans le fait que c'était un des gros spectacles qu'on a fait dans le temps. Puis non, c'est intéressant de revenir en faisant ce spectacle-là plutôt qu'un petit show de bar, là, ce qu'on aurait pu faire aussi pour finir le truc. Mais on va en faire aussi. Non, mais c'est ça, mais c'est cool de revenir avec, dans le même festival.
Parce que vous, là, du coup, paf, premier concert avec Jacques Maure,
oui.
on se fait les Franco.
Ah oui, tout à fait, rien de trop beau pour moi, mais pour nous.
Il y avait des groupes avant? Vous étiez dans des formations?
Oui, on a tous joué dans plein de groupes, dans le fond. Là, on a tous quand même pas mal d'expérience. Fait que, il reste à voir si tous ensemble, on revient encore à la sauce pour Jello. C'est le thème central de l'entrevue, je pense.
Du soir au matin, sans trop savoir, je ne sens suivre un chemin.
Yeah.
Demain, c'est la dernière et nous finirons en trombe avec les excellents Radio Radio qui nous présenteront leur tout nouvel album et ma découverte de cette édition 2012 des Francophonies de Montréal, Julien Sagot, échappé de Carquois et qui propose cette année un projet solo vraiment prometteur. Allez, je vous laisse, je vais finir mon hot dog et ma poutine. Ciao, bye bye.